toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Fréquence Mistral. Il est 15h, on est très content de retrouver les membres du comité de lecture pour une nouvelle émission des lecteurs sous les toits. Bonjour à vous tous.
Bonjour. Bonjour.
Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir auprès de moi Nicole, Jean-Loup, Claudine et Nathanaël. Ce comité de lecture de mardi dernier était sous le signe de l'Italie, puisque le comité de jumelage Manosque-Voghera était notre invité. Comme chaque année maintenant, ce comité a offert à la médiathèque un lot de livres de littérature italienne contemporaine traduits en français. Nous allons donc vous en présenter quelques-uns, ainsi que d'autres que des lecteurs nous ont présentés donc mardi dernier. Nous allons commencer par le livre « De toutes les richesses » de Stefano Beni, que Nicole va nous présenter.
Alors, bonjour, j'ai choisi de lire « De toutes les richesses » de Stefano Beni. C'est traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli et c'est aux éditions Actes Sud. J'ai choisi ce livre grâce à la quatrième de couverture que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Alors, le héros qui est aussi le narrateur s'appelle Martin. Professeur d'université à la retraite, Martin vit seul dans une maison au bord d'un chemin de terre, non loin d'un village. Avec son fils Umberto, il n'a de relation, d'ailleurs fort épisodique, que par Internet et par téléphone. Son seul compagnon est en fait son chien, Ombra, un gros chien noir, un croisement entre un Terre-Neuve et un train de marchandises lorsqu'il se jette sur vous pour vous faire fête. Martin consacre son temps, sa vie, à l'analyse des poèmes d'un poète maudit, Domenico Rispoli, dit « l'enchaîné », et à une étude de la poésie ludique. Je vais lire le portrait de Martin. J'ai presque 70 ans, âge vénérable lorsqu'il n'est pas sordide. Et je vis seul dans une maison au milieu des Apennins, solitaire mais pas trop, près d'un village pourvu de divers bed and breakfast et à quelques kilomètres d'une petite ville de 21 000 habitants dotée de 3 immenses supermarkets outlet gaspillodromes capables de contenir toute la population. Mon habitation est une maison rustique recouverte d'une tapisserie de lierre et de glycine au sommet d'une colline. Un jour, un couple de bobos trentenaires vient s'installer dans la maison abandonnée qui fait face à la sienne, de l'autre côté du chemin de terre. Lui, Aldo, peintre médiocre, est propriétaire d'une galerie de peinture qui marche mal. Martin le surnomme le Torve. Elle, Michel, vaguement actrice, écrit une pièce de théâtre d'après les Nuits blanches de Dostoïevski. Michel ressemble à la seule femme que Martin ait aimée bien des années auparavant, la mère d'Umberto, avec laquelle il a pourtant rompu, comme il a rompu avec toutes les femmes qu'il a cru aimer. Martin se met de nouveau à imaginer, rêver, désirer. Le jeune couple bat de l'aile, lui finit par partir. Un jour, une fête a lieu au village. Michel et Martin dansent ensemble, puis... En fait, l'auteur nous raconte en parallèle l'histoire d'amour entre Michel et Martin, le récit légendaire du suicide d'une jeune fille pour échapper au mariage que son père veut lui imposer, les rencontres du narrateur avec une vieille femme, peut-être folle, et qui affirme détenir la vérité sur la mort de l'enchaîné, le poète sur lequel Martin travaille, et sur celle de cette jeune fille. Car ce roman est polyphonique. L'auteur, Stefano Beni, fait alterner avec une virtuosité enthousiasmante, mais qui n'a rien de gratuit, le récit à la troisième personne du narrateur omniscient, c'est-à-dire le narrateur traditionnel comme Balzac ou Zola, et le monologue intérieur de Martin, les rêveries de Martin, qui s'imagine parfois être un chevalier du Moyen-Âge, ses commentaires sur les matchs de rugby et sur le jazz, ses poèmes et ceux de l'enchaîné. Notons d'ailleurs que chaque chapitre commence par un poème. Les analyses des poèmes de l'enchaîné par Martin, mais aussi par d'autres universitaires qui critiquent ses conclusions, avec quelquefois un peu de mesquinerie d'ailleurs. Les courriels écrits et reçus par Martin. On trouve aussi dans ce roman les discussions de Martin avec les animaux. Porc-épic, serpent, sanglier, renard, de corbeau, etc. Et naturellement son écuyer, c'est-à-dire son chien. Ces discussions, qui sont en fait une forme renouvelée et originale du monologue intérieur du narrateur, paraissent tout à coup tout à fait vraisemblables. Alors nous allons lire la discussion avec la couleuvre.
Il ne faut pas que le pain soit trop long. En précisant d'abord que le personnage qui s'appelle Ombra, c'est le chien en fait, le train de marchandises dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'heure des créatures, dit Ombra. Très juste. Voici ta nourriture, noble écuyer, des croquettes médiévales au thon. Et maintenant je sors. Quel animal me parlera ce soir? Le faon gracieux? Le porc-épic cynique? Le sanglier irascible? Rien de tout cela. La couleuvre, perfide, détestable, rejetée de tous, un S luisant dans l'herbe mouillée. Ces mots, prononcés à voix basse, couraient à peine un murmure.
On va s'accoupler, professeur? Vous quittez votre peau de vieux et vous en prenez une nouvelle, de jouvenceau?
Rien de ce que tu crois, serpent. J'en ai fini avec ce genre de folie.
On n'en a jamais fini avec les folies, siffla la couleuvre. Cette nuit, j'apporterai une pomme à ta belle, et demain, elle te l'offrira. Et ce sera une nouvelle souffrance.
Nous ne sommes pas dans l'Éden, serpent.
Mais les tentations existent partout, professeur, sur la terre comme au ciel. Et comme moi, qui peux vivre dans l'herbe ou dans un ruisseau.
Laisse-la tranquille, dit le professeur. Elle a déjà assez de soucis.
Donc, susurra la couleuvre, tu penses que je pourrais la rendre amoureuse de toi? Demande-le-moi, et je le ferai.
Non, Méphistophélès de jardin, je ne te le demande pas.
Je reviendrai, dit la couleuvre, et je serai 10 fois plus grande, un véritable python terrifiant, une tentation aussi grande que ma gueule ouverte.
Et elle disparut dans l'obscurité.
Notons que ces rencontres avec les êtres humains, ses nouveaux voisins, les habitants du village, un ancien collègue qui vient lui rendre visite, etc., sont parfois présentées 2 fois. D'abord ce qui s'est réellement passé, puis ce que les uns et les autres pensaient vraiment, ce qu'ils auraient dû dire ou ne pas dire. Ce livre oscille entre la poésie, l'ironie parfois grinçante, l'humour. Ce livre est d'ailleurs très drôle. L'auteur y analyse les apparences civilisées des personnages, leurs non-dits, leurs pensées secrètes, les relations compliquées entre eux, par exemple entre Martin et son fils. Il nous présente des légendes et une mythologie, mais aussi une critique de la société consumériste. Tout ceci qui pourrait paraître disparate, incohérent, décousu, aboutit, par le génie de l'auteur, Stefano Beni, à une synthèse harmonieuse, à un chant profond, celui des êtres qui souffrent, qui ne vit pas leur vie, même si, et qui pourtant sont vivants et profondément attachants. L'univers à la fois réaliste et fantastique, les animaux et les vêtements qui parlent ou qui pensent, est à la fois séduisant, captivant et juste. Alors, on va lire peut-être le choix des vêtements par Martin, qui a rendez-vous avec Michel.
Le professeur possédait une garde-robe divisée en 2 catégories, passé et présent. Vintage et dernier cri. L'armoire de sa chambre à coucher était à 2 compartiments. Dans l'un se trouvaient les quelques vêtements qu'il portait tous les jours, plus la provision de caleçons et de chaussettes. Dans l'autre dormaient sereinement les costumes qu'il ne portait plus depuis des années. Après Corletta, donc une bonne qu'il a eue autrefois, après Corletta avait déclaré forfait pour cause de grand mérisme, la goitreuse et souriante Evelina lui avait succédé et venait faire le ménage 2 fois par semaine. Mais en ce moment, elle était au lit, clouée par la goutte, et le professeur se débrouillait seul. Le résultat était tout juste honorable. Les araignées prospéraient au plafond, et de temps à autre, un petit nuage de poussière s'élevait des livres et des objets qu'il effleurait. C'est donc avec une certaine inquiétude que le professeur tourna la clé du vestiaire passé. Une odeur de vieux lainage et de lavande se répandit dans la pièce, et un murmure de surprise s'éleva des pantalons suspendus au cintre. Qui les tirait de leur noir sommeil? Un mariage? Un anniversaire? Ou une fin peu glorieuse sur l'état d'un brocanteur? Et surtout, Qui serait l'heureux élu, celui qui reverrait le soleil ? Le professeur examina une à une toutes ses vestes. Il tenta d'assortir chacune à un souvenir, mais n'y parvint qu'avec une seule. C'était une veste à petits carreaux noirs et blancs, et il se rappela le commentaire de son collègue Maras, du temps où celui-ci avait encore envie de plaisanter. « Les pions, c'est moi qui les apporte ?» Il procéda à un premier examen de la situation, et le résultat fut désastreux. Les mites et autres insectes tissufages avaient fait la noce pendant un an, une orgie de tweed, une bacchanale de lin, une dégustation de laine diverses et variées, des trous sur chaque veste et pantalon. « On peut réparer, on peut remédier !» chantèrent en chœur les vêtements passés. Mais le professeur secoua la tête et ouvrit le tiroir des chemises. L'école était râpée, et une seule était immaculée, celle d'un orange fluorescent, un cadeau de Rémorus. Mais elle n'avait jamais été portée, et ne le serait jamais. Avec un soupir et un cri de douleur venu des vêtements passés, le professeur ouvrit la porte du présent. Pensivement, il examina la situation. Quelle noce pourrait faire ressortir sa sénile beauté ? Il choisit la composition qu'il utilisait lorsqu'il allait en ville. Une veste en velours noir, doublée de rouge, et un pantalon beige, miraculeusement dépourvu de taches et de bougnettes. La chemise était celle des grandes occasions, vert provençal, imprimé de petits lys. Il revêtit l'ensemble et admira son buste dans la glace de l'armoire. « Martin, se dit-il in petto, pourquoi tant d'attention et de soin ? Le jugement de la princesse des blés, t'intéresse tant que ça ? Elle ne te connaît pas déjà avec ton trousseau de haillons si caractéristique ? Mon souci est d'être correct, pas de séduire, répondit le professeur s'auto-acquittant.
Alors, on peut lire aussi, vous avez dû remarquer l'absence totale de sens pratique du personnage. Voilà encore un exemple. Alors, il se prépare régulièrement une recette de veau à la forget me not. C'est une recette très simple. Veau à la souviens-toi de moi. Prenez une petite tranche de veau et couchez-la dans la poêle avec un peu d'huile. Essayez de vous souvenir que vous l'avez mise sur le feu et enlevez-la avant qu'elle ne brûle. Alors, évidemment, il est distrait, en fait, par sa jeune et jolie voisine. Il sort de chez lui et il rentre. Je suis rentrée. Une odeur familière de brûlé too late provenait de la poêle. En effet, le veau à la forget me not présente trois variantes. Le veau naturel, si vous oubliez d'allumer le gaz. Le veau too late, à moitié brûlé, mais presque mangeable. Le vitel tonné, ce qui revient à dire que vous devez jeter la tranche carbonisée et manger une boîte de thon. Et enfin, dans un registre un petit peu plus grave, les interrogations de Martin sur ses sentiments. Tu écoutes les voix dans le mur, professeur ? Oui, et je parle avec les animaux, et je parle avec mon passé, et avec ce qu'il y a de pire en moi. Je ne veux pas admettre que Michel a illuminé ma solitude. Mais lorsqu'une pièce est illuminée, on découvre aussi ce qu'elle a de vieux et de misérable, dont nous ne voulons plus. Elle me manquera. Comme mon fils me manque, comme souvent me manque un ami avec lequel je pourrais rire et me pencher. Ma solitude est digne, je l'affronte tête haute, mais si je la regarde en face, elle me raille, me blesse, elle fait revenir toutes les solitudes du passé. C'est ainsi, chaque solitude contient toutes les solitudes déjà vécues. Je ne cesse de me répéter que je ne suis pas amoureux. Mais n'est-ce pas de l'amour que de désirer une journée de plus avec une personne que l'on connaît à peine, ardemment désirer d'être seul avec elle, de se sentir choisi. N'est-ce pas de l'amour que d'attendre pendant des jours le coup de téléphone d'un fils et de se sentir heureux parce qu'on entend sa voix et de se rappeler tous les moments passés ensemble ? Tu as mal à l'idée que tu es encore capable de ces détestables amours, professeur. Peut-être parce que ce sont des moments très courts. Peut-être parce qu'à ton âge, tu sais qu'il passe vite et que certains jours, tu te réveilles avec un seul désir, celui de la mort. Et pourtant, quelque chose de nouveau survient et le feu se met à flamber. Il brûle de manière inattendue. Tu souhaites le calme, mais tu ne l'as pas. Tu devras attendre, tu devras souffrir, ou alors tu auras bientôt le refuge d'un cœur vide. Ton âme s'éteindra comme une bougie. Tu marcheras parmi les vivants ou les choses vivantes, sans rien avoir à leur raconter. Ou bien tu écriras, tu attendras, tu aimeras. Qui peut m'aider? Qui est assez vieux ou assez jeune pour m'expliquer tout cela? Voilà, alors je rappelle le titre, « De toutes les richesses », c'est de Stefano Beni, c'est traduit de l'italien par Marguerite Pozzoli et c'est aux éditions Actes Sud.
J'ai donc choisi l'aquarelliste de Béatrice Masini, qui est traduit de l'italien par François Rousseau, aux éditions des Deux Terres. Il y a une magnifique fleur sur la couverture, c'est ça qui a dû m'attirer. Cette histoire se passe au début du 19e siècle, en Italie du Nord, qui est sous la domination autrichienne. Orpheline de mère, Bianca a reçu une excellente éducation. Elle a beaucoup voyagé en Europe avec son père, fréquenté musées, salles de spectacle, concerts, opéras. Elle est artiste peintre spécialisée dans les aquarelles de fleurs. Son père vient de mourir, elle n'a pas de fortune. Sa seule perspective d'avenir, selon les règles de l'époque, est le mariage. Mais ce n'est pas son projet. Elle est invitée par un écrivain célèbre, Don Tito, qui se dit lui-même poète et paysan, dans sa belle propriété de Broussouliau. Il est féru d'horticulture et lui demande d'illustrer un catalogue de la flore extrêmement riche de son domaine. Bianca est donc une jeune femme libre, chose impensable à son époque, puisqu'elle n'a pas plus de père et pas de mari, et qu'elle va vivre en gagnant sa vie. Des insectes, des enfants, des fleurs, comme son monde est limité, et en même temps plein d'hypothèses à formuler. Les insectes et les enfants. Pietro a l'insistance maligne d'un frelon. Enrico, la douceur molle d'une chenille qui ne connaît d'elle-même que sa bouche. Et leurs trois sœurs sont comme de minuscules sauterelles. Vert, lilas et bleus, tout en yeux, qui ne tiennent pas en place. Et Mina, parce qu'au fond c'est une enfant elle aussi, ressemble à un jeune coléoptère, une de ces bestioles toujours changeantes que Bianca déteste tant. Jamais décidée à se poser ici ou ailleurs, seulement capable de vols brefs et inconscients. Bianca trace des esquisses, saisit des instants, des sensations, des gestes, des mouvements. Elle écoute des noms. Parmi les plantes et les fleurs, celles qui l'attirent sont surtout celles qu'elle ne connaît pas. Et au vrai, le parc-jardin de Broussouliau lui offre une inestimable variété de nouveautés. Le liquidambar, tendu hors de terre comme une flèche pointée vers le ciel. La brume verte du sophora. Le sassafras albidum avec ses feuilles de trois sortes, qui imitent des mains gantées, des dards indigènes ou simplement d'autres feuilles. Le catalpa, qu'on appelle l'hippopotame tant il a grandi, et cet autre, dont le trône court à l'horizontale, sur lequel on peut s'asseoir à califourchon à balançant les jambes. Et aussi les buissons, le mahonia qui sent le miel, les genêts, la coronille, la mamélisse aux fleurs décoiffées déjà éteintes, et des plantes aux noms nouveaux, la betamsa, le flomis, des noms souvent presque trop sonores pour l'humble apparence de ces touffes débonnaires. Dans cet univers végétal, ce qui lui incombe ne lui semble guère un travail, car sa mission ne différerait presque en rien de l'oisiveté fervente dans laquelle elle a passé son enfance et sa prime jeunesse. Alors, dans ce monde de riches nantis, la maîtresse de maison a décrété que la domestique personnelle de Miss Bianca serait Mina, qui est trop fragile pour les gros travaux, mais doit tout de même apprendre un métier. Bianca s'entend très bien avec Mina et avec Pia, l'autre jeune fille, domestique également, mais instruite par le prêtre qui l'a élevée. Donc Pia sait lire, ce qui n'est pas le cas habituellement des domestiques. Et elle ne comprend pas très bien ce que font ces deux jeunes filles dans cette famille. Alors Mina explique à Bianca le mystère de son enfance. Mina, qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Il a quelque chose de nordique, a-t-elle pensé la première fois qu'elle l'a entendu. Mais elle ne voit pas où les parents de la petite, deux paysans au visage rouge et rugueux comme des briques, ont bien pu aller le pêcher dans les litanies des saints ou les listes de leurs ancêtres. Mina, qui pliait ses chemises, a saisi la balle au bond. Laissant là son travail, elle s'est assise sur une banquette, les pieds en dedans, les coudes sur les genoux, considérant Bianca. Oh, c'est une longue histoire. Bianca continue à se coiffer toute seule. « Vas-y, je t'écoute, » dit-elle. Et la gamine commence à lui faire un récit qui, d'évidence, lui plaît beaucoup. « Eh bien, c'est le nom qu'on a mal recopié sur le certificat d'indigence que le curé a fait pour mon papa. Il ne pouvait pas me garder. À la maison, il y avait déjà Myrta, Carlo, Batista et Luigina. Et puis, la moisson était proche. » parce que je suis née en mai, et maman devait travailler au champ, elle ne pouvait même pas m'allaiter. Alors on m'a emmenée au Tour, à Milan. Bianca a déjà perdu le fil. « Le Tour ? » demande-t-elle, posant sa brosse et se retournant, car l'histoire promet en effet d'être longue et compliquée. Et Mina, contente de pouvoir instruire l'étrangère ignorante. « Le Tour, c'est l'endroit où on dépose les enfants abandonnés. » « L'orphelinat, » dit Bianca, convaincue d'avoir compris. « Mais non, mademoiselle, » Mina rit, cachant sa bouche avec sa main. « Moi, un papa et une maman, je les avais, je vous l'ai déjà dit, et je les ai encore. Mais on n'abandonne pas seulement les enfants orphelins, vous savez, les pauvres aussi, même si c'est pas pour toujours. Moi, ils m'ont reprise quand j'avais 5 ans. Et avant, tu étais dans cette institution ? » Les sourcils de Mina ne forment qu'une seule ligne horizontale. L'institution ? Oui, l'endroit où on garde les enfants abandonnés, le tour, comme tu l'appelles. À Paris, Bianca est passée devant. Un grand immeuble blanc, élégant. Et son père lui a expliqué cette coutume hautement civile de confier les nouveau-nés en trop à la puissance publique pour qu'ils grandissent en bonne santé et reçoivent une instruction, ou du moins le peu qu'il en faut, ou en faudrait pour tout le monde. Mina s'illumine. « Mais non, mademoiselle, vous n'avez pas compris. Le tour, c'est une boîte qui tourne, qui tourne. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et on dépose les bébés dedans. Mais il n'y reste pas, les enfants, dans la maison du tour. Elle est là que pour les nouveau-nés. Quand on les a mis dans le tour, il y a des gens qui les prennent, qui les regardent bien pour voir s'ils sont en bonne santé. Et ensuite, ils les mettent en nourrice à la campagne. » Les gens qui en veulent peuvent venir les prendre, ou on leur donne de quoi les habiller, les couvertures, et de l'argent aussi. Et ils les élèvent comme leurs enfants à eux, parce qu'ils n'en avaient pas, ou parce qu'ils en avaient besoin, pour qu'ils aident dans la maison, qu'ils surveillent les troupeaux, ou gardent les oies, ou travaillent au champ. Mais il faut bien les soigner, parce qu'il y a des contrôles. Et si l'enfant meurt, plus d'argent, c'est fini. Et puis les pères et les mères, les vrais, peuvent venir les reprendre s'ils veulent. Et s'ils peuvent, quand ils peuvent. Moi, ils m'ont reprise quand j'avais 5 ans, répète-t-elle, son visage s'éclairant de nouveau. Mais on s'était trompé sur mon nom. Papa lui avait dit Herminia au vieux curé. Mais où il était sourd, ou l'homme de là-bas, celui qui recopiait les noms sur le registre, l'a écrit de travers. Et les gens de Coussago, ceux qui m'ont prise chez eux, se le sont fait lire par le curé du village qui n'y voyait peut-être pas bien, lui non plus, parce qu'il a dit « Armina ». Et puis, il a dit aussi que c'était pas un nom de chrétienne, qu'il fallait m'en donner un autre, un nom de sainte normale. Mais d'Armina, on a vite fait de passer à Mina. Et Mina, je suis restée. Même quand je suis rentrée à la maison, enfin, je veux dire ici, j'étais habituée, vous voyez, comme les chiens et les chats, quand on change leur nom. Ils comprennent plus. Voilà donc l'histoire de Mina, qui est aussi la même histoire pour Pia. et Bianca est un jour frappée par le visage de Pia, qui ressemble de façon frappante au maître de maison. Elle va donc mener l'enquête, découvrir des mystères, mais elle va parfois faire des erreurs. C'est un livre qui se lit très très bien, qui a des passages extrêmement poétiques. Il y a une histoire qu'on sait, on veut absolument savoir la fin. Je le recommande vraiment, très agréable. L'aquarelliste de Béatrice Mazzini.
Alors, je vais vous présenter La fille du pape de Dario Fo, roman traduit de l'italien par Camille Paul et qui a été édité en 2014 chez Grasset. Alors, tout d'abord, je vais reprendre un petit peu la biographie de Dario Fo. C'est un écrivain italien, dramaturge, metteur en scène et acteur. Né dans une famille prolétaire de tradition démocratique et antifasciste, il découvre très jeune le théâtre populaire et la tradition orale par l'intermédiaire de son grand-père. En 1952, il écrit pour la radio ses premiers monologues comiques intitulés « Pauvre nain ». En 1954, il épouse Franca Rame, fille d'une grande famille de comédiens populaires qui devient son inséparable partenaire. Ensemble, ils reprennent à leur façon des farces traditionnelles et écrivent de grandes comédies où ils fustigent les institutions et les classes dirigeantes tout en déployant une fantaisie débridée. En 1968, ils fondent l'association Nuovo Senna avec l'aide du Parti communiste italien. Ils sont au service des forces révolutionnaires et s'éloignent des circuits traditionnels du théâtre. Puis, en 70, Dario Fo rompt avec le Parti communiste et crée avec ses camarades un autre collectif théâtral, La Commune. Ces années sont celles des grands succès, Mystère Bouffe en 1969, épopée des opprimés inspirée de la culture médiévale, qui apporte à Dario Fo une renommée mondiale. Puis, Mort accidentelle d'un anarchiste en 1970, et Faut pas payer en 1974, Nicole me disait qu'elle l'avait vu en représentation. Artiste hors norme, il reçoit en 1997 le prix Nobel de littérature pour avoir, dans la tradition des bateleurs médiévaux, fustigé le pouvoir et restauré la dignité des humiliés. Alors, ici, Dario Fo signe son premier roman à 88 ans. Et il s'attaque à la réputation sulfureuse d'une femme, symbole du vice et de la débauche, Lucrèce Borgia. Lorsque Rodrigo Borgia est élu à la Sainte Chaire de Rome en 1492, Lucrèce découvre qu'elle est la fille du pape, Alexandre VI, qu'elle croyait son oncle. Et avec Sylvie, nous allons vous lire ce passage, c'est-à-dire comment le pape est devenu père d'enfants et comment il exprime à ses enfants.
En 1466, ou peut-être l'année suivante, le cardinal Rodrigue rencontre celle qui sera la femme la plus importante de sa vie, notamment parce que c'est elle qui, quelque temps plus tard, donnera le jour à Lucrèce.
C'est une ravissante romaine, probablement d'origine lombarde, grande, élancée et pleine de charme, mais surtout, c'est une femme intelligente. Car sinon, elle n'aurait pas à ce point envoûté un homme aussi expérimenté et puissant que Rodrigue.
Elle se nomme Giovanna Catanei, dite Vanozza. À l'époque de leur rencontre, elle est âgée d'une vingtaine d'années.
Rodrigue a 11 ans de plus. Le cardinal tient cette relation secrète et il installe sa maîtresse dans une somptueuse maison où il lui rend visite chaque soir en usant de la plus grande prudence.
Pourtant, dans la société de ce siècle, c'était une coutume admise qu'un homme d'église entretienne des relations inconsidérées avec des femmes de n'importe quelle classe et position sociale.
Nous avons donc affaire à un fiefé libertin, toutefois doté d'une certaine pudeur. Appelez-la hypocrisie de prélat si vous préférez, comme le dit Molière dans son Tartuffe. En revanche, il est à noter qu'à la différence des relations qu'il a entretenues jusqu'alors, avec Vanozza, le grand prélat ne recherche pas tant l'aventure qu'une certaine idée de la famille.
À tel point que les quatre enfants qui naîtront de cette union seront aimés et élevés dans un noyau familial presque stable. Ne pouvant pas interpréter lui-même le rôle du père, le cardinal loue les services d'un autre homme pour le remplacer, et il le choisit avec soin.
Il se nomme Giorgio De Croce et exerce comme secrétaire apostolique. Inutile de préciser que cet emploi au Vatican, c'est lui, le véritable père, qui le lui a procuré. Et naturellement, il a ajouté une rétribution supplémentaire pour ce rôle.
Rodrigue doit à son tour se choisir un habit, et il en endosse un tout à fait crédible, celui de l'oncle. Un oncle aimable, généreux et des plus affectueux envers ses neveux. Il va les voir chaque soir sans faillir, les bras chargés de présents. Et comme de bien entendu, il s'est réservé chez Vanozza une petite chambre modeste, un pied-à-terre, comme dans les pochades ou les jeux scéniques de la Commedia dell'arte.
Sort de scène le mari-père, entre l'oncle cardinal qui, la nuit, une fois les enfants embrassés et câlinés, feint de se retirer dans sa chambre pour aller dormir.
Mais ressort et se faufile en cachette jusqu'à celle de l'épouse du faux mari pour se glisser dans sa couche.
Parfois, il tombe sur un des enfants qui a fait un mauvais rêve et cherche sa mère. Mais le tonton le console, le prend dans ses bras et le remet dans son petit lit en lui chantant une berceuse.
Puis, il va en fredonner une d'un autre genre à leur mère.
Pour être honnête, parmi tous ces rôles, celui qui requiert le plus d'application est celui du faux mari.
Jouer le rôle du père et celui de l'époux pour ensuite, quand le patron arrive, disparaître et ne rentrer qu'à l'aube, et quand il s'en va se déshabiller à nouveau pour se remettre au lit, n'est pas un jeu des plus divertissants.
Mais les avantages financiers ne sont pas négligeables. Et la situation est sûre, si bien que cela vaut la peine de tenir aussi le rôle du ruffian.
Mais, comme dans les impromptus que l'on commençait à jouer à cette époque, un coup de théâtre ne manque pas de survenir. Le faux mari, faux père, meurt soudain. Est-ce un rebondissement inventé de toutes pièces ?
Non, il est véridique. Après l'enterrement du père putatif, entre les prières et les larmes, il faut en trouver un autre.
Cette fois, Rodrigue voit grand et engage un lettré, Carno Canale, plus jeune que son prédécesseur.
Il a plus ou moins le même âge que maman Vanozza.
Naturellement, lui aussi, il trouve son compte. Il est rétribué en conséquence et doit seulement s'occuper de la veuve consolable et des enfants auxquels il tient aussi lieu de précepteur.
Émolument en sus.
Canale découvre très vite que ses nouveaux enfants sont particulièrement brillants, versés autant dans les sciences que dans les lettres et la poésie. La plus versatile et la plus réceptive est sans nul doute Lucrèce, qui, de l'enfance à la puberté, avec une facilité inouïe, apprend le latin et le grec, citant de mémoire en peu de temps des passages d'œuvres lyriques et les vers des plus grands auteurs.
Elle n'a alors que 6 ans. 6 autres années s'écoulent et nous arrivons au jour où le pape Innocent VIII agonise dans son lit.
Après Pie II, Paul II, Sixte IV et justement Innocent VIII, le cardinal Borgia décide que le moment est venu de se faire élire à la fonction suprême. Il devient dès lors inutile qu'il continue de jouer en famille le rôle de l'oncle aux multiples largesses, qui arrive le soir et repart à l'aube.
Puisqu'il va bientôt être le chef de la Sainte Chaire de Rome, il peut tuer dans l'œuf les commérages qui ne manqueront pas d'éclater dès que l'on apprendra que le pape a des enfants et une épouse morganatique.
Il va maintenant lui falloir dévoiler la vérité à sa progéniture. Nous ne possédons pas de documents à même de nous renseigner, mais il est facile d'imaginer ce qui s'est dit au moment de la révélation. Il réunit la famille autour de lui et commence.
« Mes chers enfants, votre oncle ne va pas tarder à devenir pape !»
Cris et applaudissements, étreintes et embrassades.
« Quel est alors l'âge des enfants ?»
L'aîné, Juan, a 18 ans.
César en a 16.
Lucrèce, 12.
Et le petit dernier, Joffre, 10.
Lucrèce saute dans les bras de Rodrigue et lui demande « Mais nous ?» On pourra continuer à t'appeler tonton ou il faudra qu'on ajoute sa sainteté ?
Rodrigue respire profondément et les invite à faire cercle autour d'eux, de lui et à s'asseoir, y compris Vanozza et le faux mari, et il annonce alors l'incroyable vérité. Non, vous ne devrez plus m'appeler oncle Rodrigue, car en réalité je ne suis pas le frère de votre mère et Carlo Canal n'est pas son deuxième mari et feu votre père n'était pas du tout votre papa.
Les enfants sont abasourdis. César demande « Donc, si chacun ici n'est pas le personnage qu'il prétend être, qui es-tu, toi ?»«
Je suis votre père à tous, le vrai, pas seulement votre père spirituel. Avant tout, votre père charnel, celui que vous a engendré avec votre mère, la seule personne réelle.
Et César de demander, plein de ressentiment. Pourquoi nous avoir menti pendant tout ce temps ?
Parce qu'il aurait été scandaleux que l'on sache que le vice-pape que j'ai été jusqu'alors avait une femme qu'il aimait et qu'ils avaient eu ensemble 4 enfants qu'il adore. Vous en seriez vous aussi difficilement sorti indemne.
Lucrèce éclate en sanglots et avec elle son frère cadet. Vous nous avez toujours dit qu'il ne fallait pas mentir, requête sa fille, que la vérité ne peut être ni trahie ni souillée. Et voilà que nous apprenons que tout était faux, truqué. Notre père mentait en nous serrant dans ses bras. Il mentait en s'allongeant dans le lit de notre mère. Et notre précepteur ne valait guère mieux. Il n'y avait rien de vrai. Que répondrons-nous à nos amis, aux gens qui, avec ironie, nous demanderont « Comment se portent vos pères ?»
Rodrigue dit avec calme « Vous leur poserez la question suivante. Et les vôtres ?» Car sachez qu'au Vatican et aux alentours, les enfants légitimes sont aussi peu nombreux que les mères véritablement mariées. Quoi qu'il en soit, je vous ai toujours aimé comme mes fils et je pourrai désormais le faire au grand jour.
Et pourquoi seulement maintenant ?
C'est très simple, mes enfants chéris. D'ici quelques jours, je serai élu pape et trônerai au sommet de la pyramide. Seul, celui qui se trouve au sommet n'a jamais à craindre d'être éjecté de la pyramide. Et cet homme, c'est le pape. Alors, dans ce roman, donc il n'est pas exempt d'humour, l'auteur va découvrir 39 années de la vie de Lucrèce Borgia, qui était drapée de rumeurs, qui est victime de sa beauté fastale et surtout des agissements de son puissant clan. Elle a toujours été manipulée par son frère, par son père, qui en fait ne voit que leurs propres intérêts. Donc ils n'hésitent pas à s'en servir comme d'une marchandise. Ils vont lui faire faire un premier mariage avec Giovanni Sforza. Puis finalement, quand il ne leur sert plus à rien, ils vont le faire annuler sous le fallacieux prétexte de l'impuissance de ce pauvre Giovanni Sforza. Elle le prévient d'ailleurs quelque temps auparavant parce que c'était Oussa où il se faisait assassiner. Mais comme elle l'a prévenu à l'avance, ça ne sera plus que la signature sur son impuissance. Par contre, son second époux, le Napolitain Alphonse d'Aragon, alors qu'elle l'aimait, qu'elle l'adorait, eh bien son frère le fait assassiner. Et là, elle va vraiment leur en vouloir. Mais le pape va lui trouver un troisième mari. Alphonse, encore un Alphonse, Médeste cette fois-ci, et futur duc de Ferrare. Chaque fois, ce n'est que histoire de pouvoir et de richesse. Mais à Ferrare, Lucrèce va donner sa pleine dimension. Elle va protéger les artistes, les humanistes, l'Arioste, Pietro Bimbo. Et en fait, il va surtout, notre Dario Fo, va déclarer sa flamme à cette femme qu'il va essayer de réhabiliter. Et il met en scène une époque foisonnante avec donc tout cet éclat artistique de la Renaissance, des intrigues, des assassinats politiques. Et il rétablit un malentendu et redonne noblesse et humanité donc à notre figure féminine Lucrèce, qui est une femme en fait étonnant de la Renaissance. De plus, ce texte est joliment illustré des œuvres dessinées et peintes par l'auteur lui-même. Donc, vous voyez chacun des protagonistes, suivant les pages de César, d'Alphonse d'Este, qui sont représentés. Alors, il s'est amusé à les repeindre en suivant souvent, en partant de portraits existants de la Renaissance. C'est un livre très agréable à lire, érudit, mais comme vous l'avez entendu, avec une écriture pleine d'humour et de légèreté. Je vous le recommande et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'était donc de Dario Fo, La fille du pape, édité en 2014 aux éditions Grasset.
Goliarda Sapienza, le titre du livre L'Université de Rebibbia, traduit de l'italien par Nathalie Castagnier aux éditions Le Tripode, qui depuis quelques années publie l'intégrale à titre posthume de cet auteur. Ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est d'abord le nom de son auteur, Goliarda Sapienza. Son étrange prénom, Goliarda, m'a fait penser au vieux mot français « goliard » qui désigne des clercs itinérants du Moyen-Âge, auteurs de pièces de théâtre, mais surtout de poèmes et de chansons, dont les célèbres Carmina Burana, mises en musique par Karl Orff au XXe siècle. Son nom, Sapienza, m'a évoqué un autre vieux mot français, « sapience », la sagesse au sens philosophique du terme, la sagesse de Montaigne ou de Socrate, par exemple. Goliarda Sapienza, 1924-1996, a été actrice dans des films de Visconti, de Comencini, dans des pièces de théâtre de Pirandello, entre autres, avant de se consacrer à l'écriture. Elle a eu une vie mouvementée et même torturée entre théâtre, cinéma et écriture, entre dépression, tentative de suicide, internement en asile psychiatrique et en prison, et engagement politique à l'extrême gauche comme ses parents. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a une douzaine de pages qui sont un cahier chronologique illustré de plusieurs photos, notamment où on voit Goliarda avec son père. En 1980, elle vole des bijoux dans l'appartement d'une amie, un peu par défi, un peu par jeu. Elle le fait d'une manière si volontairement maladroite qu'elle se fait arrêter. Elle est incarcérée à la prison de femmes de Rebibbia à Rome, cette prison qu'elle appelle donc l'université de Rebibbia. Elle y rencontre évidemment le personnel de la prison, qui ne sait pas trop comment elle s'appelle, qui ne sait pas où est le nom, où est le prénom, si elle s'appelle Sapienza, Speranza, Goliardo. Bien sûr, elle y rencontre surtout des femmes détenues. Certaines sympathisent avec elle. D'autres la rejettent violemment, voire l'agressent physiquement et verbalement. Mais à force de patience, d'attention aux autres, de silence plus ou moins résigné, elle apprend le fonctionnement de la prison, les comportements qu'il faut avoir et ceux qu'il faut absolument éviter. Elle rencontre des femmes étonnantes, parfois monstrueuses, souvent émouvantes, comme cette femme noire qui fait la grève de la faim pour obtenir que son procès ait enfin lieu et qui d'ailleurs obtiendra satisfaction, ou cette chinoise qui se fait appeler Suzy Wong, comme l'héroïne d'un roman de Richard Mason, écrivain anglais du XXe siècle, Suzy Wong qui réunit chez elle, dans sa cellule, chez elle en quelque sorte, quelques femmes tous les dimanches autour d'un plat de riz et d'une tasse de thé. Elle y rencontre même des intellectuels comme elle, Barbara, Roberta, qui ont des livres, du papier, des stylos. Voici un extrait du récit de la première fois où Goliarda Sapienza est invitée, entre guillemets, chez Suzy Wong. « Quelle belle couleur a ton riz, Suzy ?»« Et ça aussi, ça aide. Ici, jamais une couleur quelque part. Tout est gris. » Toi, chanceuse d'arriver ici en été, moi, arrivé quand c'était l'hiver, et il pleuvait, et on ne pouvait pas sortir, à moins être scaphandrier. Terrible ici, l'hiver, quand dehors tout est comme un lac. Un instant, cet hiver de Suzy se manifeste en un gris sourd qui passe comme un nuage sur la porcelaine de son visage et me serre le cœur en une morsure humide. Ce n'était qu'un instant, mais suffisant pour obscurcir la pièce et ressusciter la nausée assoupie en moi. Suzy s'aperçoit tout de suite de mon malaise, ai-je pâli, et de la main fait un geste amusant, comme pour chasser une mouche qui se serait posée sur moi. Stupide, Suzy, stupide parler d'hiver, quand dehors il y a un soleil magnifique. Regarde, Goliarda, c'est comme ça que se prononce ton nom, hein? Regarde comme le riz est réussi. Les grains tous séparés et jaunes. J'y ai mis du safran. La couleur du safran est comme soleil au crépuscule dans mon pays. Allons-y, les filles ont faim maintenant. Ma nausée est passée au geste de Suzy, et je suis en mesure de distribuer les assiettes sur la petite table où se serrent plein de têtes. La nausée passe au signe de solidarité qui ne manque jamais de vous soutenir si l'on découvre votre regard trop fixe, rivé à la porte fermée ou à la fenêtre, ou si seulement vous vous enfermez un instant en vous-même. Ce n'est pas qu'elle ne sache pas se taire si vous êtes en train de penser ou vous laisser aller paisiblement à des caprices de l'imagination, mais à peine vous flanchez, elles le sentent. Ces femmes connaissent encore l'art de l'attention à l'autre. Elles savent que de la condition psychique de l'une peut dépendre celle des autres. Attention et solidarité absolue envers qui vous est ami. Rejet complet de qui vous est ennemi. Impossible de trouver des nuances dans cette société. Il n'y a pas de temps pour les hésitations, les changements d'avis. Tout est si clair que la voix de Suzy ne me surprend pas quand elle me dit par-dessus la table « Tu penses harmonieux maintenant. » La petite chinoise me connaît déjà. Comme toutes celles qui sont là, elle est parvenue au langage profond et simple des émotions, de telle sorte que langue, dialecte, différences de classe et d'éducation ont été balayées comme d'inutiles camouflages des vraies forces et exigences des profondeurs. Cela fait de Rébibia une grande université cosmopolite où chacun, s'il le veut, peut apprendre le langage premier. Phrase qui, évidemment, explique le titre du livre. Mais évidemment, la vie, ou plutôt la survie dans cette prison, est loin d'être idyllique. Et les scènes violentes, voire terrifiantes, ne manquent pas. En particulier, la sauvage agression dont sont victimes certaines femmes de la part d'hommes en uniforme, lâchées dans la prison, on ne sait ni par qui ni pourquoi, ou la tentative de suicide de Barbara. Et la sagesse acquise en prison est plutôt amère. La prison a toujours été et sera toujours la fièvre qui révèle la maladie du corps social, écrit Goliarda Sapienza. Son livre est le récit d'un apprentissage, mais aussi une réflexion profonde, fine et nuancée sur l'univers carcéral, sur la société, sur l'humanité, sur la vie. La prison a été pour Goliarda Sapienza une paradoxale école de vie, d'où le titre de ce livre plein de sagesse, Sapienza, d'humour souvent noir, de vitalité. De cette épreuve, avec ses horreurs et ses joies, Goliarda Sapienza est sortie vivante et libre, libre comme l'indique l'inscription que la mairie de Gaeta, la ville italienne où elle est enterrée, a fait graver sur sa tombe à la mémoire d'une voix libre. Et je pense d'ailleurs que cette lecture rend libre. C'était donc de Goliarda Sapienza, l'université de Rébibia, aux éditions Le Tripode.
Je vais maintenant vous présenter La Ronde des Désirs Impossibles de Paola Calvetti, paru chez Albin Michel en 2014. C'est également un livre de la sélection des livres offerts par le comité de jumelage de Voghera. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui, dès le début du livre, est renvoyée de son travail et qui va s'enfermer dans un café toute la journée pour observer les gens. Donc, nous allons vous lire le début du livre. On va voir un petit peu comment, dans quelles conditions, elle se fait renvoyer de son travail.
Il est 10h23 et depuis 77 minutes environ, je suis sans emploi.
Oh, n'allez pas vous imaginer la petite blonde new-yorkaise filmée par les télés du monde entier au moment où elle quitte l'immeuble de Lehman Brothers avec son carton d'affaires entre les bras. Quand ça lui est arrivé, on était au mois de septembre. Le soleil brillait sur Manhattan et avec ses cheveux lisses, son visage maquillé, ses tongs aux pieds et presque rien sur elle, cette fille était le summum du chic. Elle est devenue une icône, le symbole d'une époque. Alors que moi, j'ai les lèvres gercées, les pieds congelés et les cheveux qui frisent comme des feuilles de scarole.
Pourtant, moi aussi j'ai été licenciée et j'aurais mieux fait de porter des bottes en caoutchouc. Dans mon trousseau d'accumulatrices, qui ne jette rien, on ne sait jamais, ça pourrait redevenir tendance, j'en ai en cuir, en daim, à talons et sans talons, même si elles sont toutes marron ou noir. Dès que l'automne approche, c'est-à-dire au moins une fois par an, je me promets d'acheter des bottes en caoutchouc. Si je l'avais fait, j'en serais quand même là à traînailler dans un bar tabac. Mais je n'aurais pas les chaussettes collées aux pieds dans des bottes en daim, franchement inadaptées à une journée aussi spéciale.
L'auteur de ma nouvelle vie est la directrice des ressources humaines, alias la DRH. Pour nous, enfin pour les autres, puisque je n'en fais plus partie, qui travaillons au TBD, Think Bold Department, de chez Breston & Partners, elle est tout simplement la witch, la sorcière. À 9h02, je venais juste d'allumer mon ordinateur lorsqu'elle m'a convoqué dans son bureau sans se faire annoncer par sa secrétaire, toujours très protocolaire.
Je n'ai pas été perturbée en entendant sa voix directement dans le combiné, car tout en lui répondant, j'étais distraite par deux grosses colombes, perchées sur le rebord de la fenêtre, à quelques centimètres de mon nez. Je suis montée au deuxième étage et j'ai frappé à la porte du bureau. Super luxueux, meublé d'un divan, d'un tapis, d'un ficus benjamina aux feuilles luisantes, d'une table ronde pour les réunions, d'étagères débordantes de classeurs et d'un bureau. Grand et minimal.
Pas de papier, de notes, de brochures, de revues, de trousses, de mouchoirs en papier ou autres objets spécifiques. Sur la table en acier et cristal de la Witch trône un ordinateur dernière génération qui renferme des dizaines d'existences.
Seul le chauffe-pied électrique, un avantage en nature dont le maître de mon destin profite jusqu'au beau milieu du printemps, apporte une touche de fragilité humaine à ce laboratoire aseptisé.
J'ai frappé une deuxième fois, avec délicatesse, à la porte entrouverte, et j'ai pénétré dans le bureau après un strident.
« Oui, entrez !»
Le grognement d'hyène de la witch ne m'a même pas alarmée, car son petit sourire ricanant fait partie du décor. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, grève, guerre, krach boursier, catastrophe naturelle, Madame limite ses commentaires au strict nécessaire. Notre rendement. Appuyée au dossier d'un fauteuil ergonomique en cuir, elle m'a toisé et observé une pause de circonstance. Et quelques secondes plus tard, a émis sa sentence.
Disons qu'elle n'a pas annoncé exactement « Mademoiselle, vous êtes licenciée ». Mais elle a prétexté la pire crise économique ayant jamais touché le monde occidental pour m'informer que l'agence allait supprimer ce département de mégalo du TBD, réduire le service de presse et concentrer son activité sur les événements, le marketing digital, l'e-commerce, et que mon profil ne correspondait plus aux exigences de la nouvelle Breston & Partners. Voilà, donc notre héroïne se fait renvoyer. Elle passe sa journée dans un bar, à boire des chocolats chauds pour se réconforter et à observer tout ce qui se passe autour d'elle. Bon, c'est encore un livre de jeune femme trentenaire en crise, avec tous les ingrédients, une célibataire malgré elle qui fait des listes, qui prend de bonnes résolutions, faire plus de sport, moins dépenser dans les fringues. Et elle se complaît un peu dans une nostalgie larmoyante sur sa grand-mère qui, elle, la comprenait au moins. Et on peut, ça ressemble un petit peu à des livres comme Bridget Jones. Voilà, donc c'est très très sympa à lire. Oh, c'est pas d'une grande profondeur. Alors en parallèle, peut-être pour apporter un petit peu plus de profondeur au récit, l'auteur présente un jeune avocat qui lui a été marqué par une enfance endeuillée. Et ses passages sont plus intéressants. Mais là non plus, on n'échappe pas à quelques poncifs. Par exemple, sur le suicide adolescent et le deuil maternel. Évidemment, les deux personnages se sont rencontrés un petit peu sans le savoir pendant le reste du livre. Et on ne va pas vous raconter la fin, bien sûr, mais leurs destins vont les faire se rapprocher. Voilà. Donc, c'est un livre sympathique, facile à lire. Qui sera peut-être pas impérissable, mais bon, on passe de bons moments à le lire. Voilà, c'était La ronde des désirs impossibles de Paola Calvetti, traduit par Sophie Royer et chez Albin Michel. Aujourd'hui, nous vous avons présenté Nicole.
Alors, de toutes les richesses de Stefano Benni.
Claudine.
L'aquarelliste de Béatrice Mazzini.
Nathanaël.
La fille du pape de Dario Fo.
Claudine. Non, Jean-Loup.
L'université de Rebibbia de Goliarda Sapienza.
Et enfin, La ronde désirs impossibles de Paola Calvetti. Donc, cette émission va bientôt s'achever. Je vous donne les différents rendez-vous prochains. Nathanaël, tu peux peut-être parler de ce qui se passe samedi prochain à la médiathèque.
Oui, nous allons faire une petite rencontre avec Patrice, le discothécaire de la médiathèque. Donc, une rencontre musicale, découverte autour de films, autour de... qui avait pour thème, alors un petit peu lourd évidemment dans les circonstances, mais cela avait été choisi il y a plusieurs mois, sur la mort qui traverse en fait des auteurs, des compositeurs, des jeunes, enfin, mais aussi sur un petit peu le mystère de certaines œuvres, comme le Requiem de Mozart, par qui a-t-il été visité, notre pauvre Mozart, avant de mourir et de ne pas achever ce Requiem, enfin des choses comme ça.
Donc ça se passe à la médiathèque de Manosque, samedi à quelle heure ?
Alors, samedi à 14h.
Voilà. Ensuite, mardi 24, à la médiathèque, toujours à la médiathèque de Manosque, à 18h30, une conteuse, une lectrice, va lire qui s'appelle Frédéric Brouillas, va faire des lectures de textes de grands auteurs, et son spectacle s'appelle « Hum animal ». Donc c'est à la médiathèque de Manosque à 18h30, l'entrée est gratuite.
Le mardi 8 décembre, lors du comité de lecture de Gréoux-les-Bains, qui se fait tous les premiers mardis du mois, il va y avoir une rencontre avec un auteur manosquine,
mardi du mois.
Oui, oui, tu as raison, le deuxième mardi du mois. Donc une rencontre avec une auteure manosquine, Anne de la Flotte Médévi, pour son dernier livre, Le Portefeuille. Et elle avait été, nous l'avions déjà rencontrée, nous avions déjà un petit peu parlé dans les comités de La Relieuse du Guet. Et c'est la suite, en fait, de La Relieuse du Guet.
Et évidemment, comme chaque mois, le troisième mardi du mois, cette fois-ci, à 18h à la médiathèque de Manosque, donc le mardi 15 décembre, aura lieu le comité de lecture. Et cette fois-ci, là, c'était la littérature italienne, le thème sera libre. Chacun parlera des livres qu'il a lus, qu'il a aimés. Et puis, on terminera ce comité, comme ça sera le dernier de l'année, par un moment festif pour célébrer cette fin d'année autour d'un verre. Et bien sûr, ce comité de lecture sera suivi le jeudi 12 décembre à 15h par votre émission sur Fréquence Mistral, des lecteurs sous les toits. On veut remercier aussi Camille, notre technicienne, donc c'est la dernière émission des lecteurs sous les toits aujourd'hui parce que voilà, elle volera vers d'autres cieux. Merci Camille.
Merci. Merci beaucoup à vous. Merci et puis on vous retrouve donc pour une nouvelle émission le 17 décembre. À très bientôt.
Au revoir.